Bonjour et bienvenue au 1AE Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas de saison.
Bonjour.
Bonjour, très cher Thio. Je vous accueille aujourd'hui pour notre 15e émission. Une émission un peu particulière, car nous avons décidé de rehausser le niveau de la conversation en nous vous voyant. Effectivement, nous en avions assez de ces familiarités désuètes, et nous avons décidé désormais de traiter de choses de façon plus complexe, plus adulte.
Merci.
Voilà. Donc,
vous faites grand plaisir avec une invitation à votre émission et je suis heureux d'être présent.
Je vous en prie, nous aurions pu faire cette émission à la Polac avec une cigarette, un verre de whisky, mais nous sommes beaucoup plus raffinés.
Oui. Malheureusement, votre femme en fait, vous aurait tué aussi, surtout.
La cigarette aurait posé des problèmes, effectivement. Nous reprenons donc cette émission. C'est notre nouvelle saison, notre émission de rentrée, on peut le dire. C'est ainsi que parlent les podcasts. J'ai découvert que tous les podcasts font leur rentrée en ce moment. Alors, ils sont tous nouvelle saison, etc. Nous, on n'a pas fait de vacances, donc on n'a pas vraiment ce côté-là. Ça sera quand même la saison de notre anniversaire. On va fêter nos un an. On va essayer de faire un truc un peu particulier, on va pas dire quoi.
La saison de tous les dangers.
La saison de la confirmation. Et puis, ben, on va... Oui, très cher ami... Comme vous priez bien, vous causez le latin à la perfection. Eh bien, nous allons de suite attaquer avec nos rubriques habituelles, notre presque neuf.
Et Batman Universe.
Batman Tom. Universe, tome 2, qui est...
Non, tome 2.
Tome 2. Tome 2, qui est une BD de qualité, une BD qui rehausse le niveau intellectuel de la bande dessinée, comme toutes les BD que nous allons vous proposer aujourd'hui, bien entendu.
Tout à fait. Quelque part, je pense que le monde ne sera pas pareil une fois que nous aurons terminé.
Bien, bien, bien. Mais que nous raconte donc, mon cher Thio, cette magnifique BD, si ce n'est la suite du tome 1 ?
Elle nous raconte donc pas du tout la suite du tome 1, c'est une histoire totalement différente.
Comment cela ? Il me semblait avoir laissé nos personnages en bien difficile position lors du final de l'épisode.
Non, la position des personnages n'est pas très difficile en fait, Batman est toujours mort. Il y a toujours une bataille pour la cagoule. Et il y a un des Robins, un des 27 Robins en fait, qui a décidé de tataner la tête à tous les autres Robins.
Ils ne vont pas se laisser faire, j'imagine.
Certains en fait sont pitoyables, donc du coup ils se font tataner la bouche. Et puis au final, on arrive à la fin à savoir qui va devenir le nouveau Batman.
Pour prendre la place.
Pour prendre la cape.
Voilà.
Ou la cagoule.
Donc,
c'est... Ou les oreilles. Ou les batarangs aussi. En fait, c'est juste pour savoir qui c'est qui va conduire la caisse, quoi.
D'accord. Donc, nous avons affaire à une œuvre de Tony Daniel, complète, c'est-à-dire qu'il dessine, il scénarise. Je crois qu'il n'encre pas et qu'il ne colorise pas, mais bon, c'est déjà pas mal.
Ça lui fait déjà pas mal de boulot, je pense.
Voilà. Graphiquement, c'est une œuvre que je trouve de qualité, même si c'est un petit peu trop
classique.
D'autant que, bah, comme je l'avais dit dans l'émission, on avait parlé du tome précédent, Tony Daniel m'avait habitué à quelque chose d'un peu plus péchu, un côté plus manga dans son trait. Là, on reconnaît encore un peu cette patte, mais ça s'est un petit peu perdu. Niveau scénario, là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment mauvais.
Non, c'est efficace, c'est simple, efficace, mais bon, le scénario est un peu entendu, quoi.
On est dans de la BD d'action de super-héros. On va dire qu'effectivement, le Batman qui est le Batman à la fin n'est pas vraiment une surprise.
Alors, pas du tout, et je tiens juste à signaler que, bizarrement, je pense quand même que le costume de Batman doit être rembourré.
Ouais.
Parce que, bon, je ne vais pas dire quel personnage devient le nouveau Batman, mais... Bizarrement, quand on regarde ses bras quelques pages avant, il enfile le costume de Batman et il a pris 20 cm de tour de bras. Mais 20 cm.
Ah oui.
Tranquille.
Ah oui, tranquille.
Ou alors, c'est qu'il est dopé.
Il y a des seringues dans le costume.
Ça va être ça.
Du nuke. Et donc, oui.
Donc oui, enfin, voilà, le scénario, on va dire, l'histoire générale est assez simple et voilà. sans grande surprise. Le seul truc, c'est que, on va dire, l'histoire parallèle avec donc justement la lutte entre les mafieux et la pègre de Gotham, voilà, ce sera intéressant de voir son évolution.
Oui, enfin, mais c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans des histoires précédentes. Quand tu te souviens de War on Crime.
Oui.
Pas War on Crime, comment ça s'appelait d'ailleurs, excusez-moi, j'ai fait un impair. Lorsque, donc, souvenez-vous.
Oui.
Lors de la. Comment ça s'appelait cette bataille terrible où ils luttaient tout le crime, luttaient les uns contre les autres. Mmh. C'était un gros crossover batmanien.
Celui où.
Black Mask.
Non, même arrive. Pas. Moi, je pense que là, c'est le moment du
Time War. Jeu de guerre, donc. C'était jeu de guerre, les épisodes où la première Robinette a un destin tragique. Voilà.
He's dead.
Voilà. Oui, donc on retrouve un peu cette guerre du crime, machin chose, qui est toujours un petit peu latente. Disons que l'impression que j'ai, c'est que... comme ils savaient plus trop quoi faire de neuf sur le personnage, vu qu'il peut difficilement évoluer, bon là ils ont trouvé un bon moyen de faire avancer l'histoire, hein. Ils s'intéressaient plus aux relations entre les criminels.
Ouais, c'est pas faux.
Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que cette saga permet de décider qui sera le nouveau Batman, mais en fin de compte, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'histoire.
Non, rien vraiment de neuf. Là-dessus, voilà. C'est clair. Je suis peut-être la petite venue des... de Superman, de Wonder Woman et tout, et puis bon, la petite larme d'Alfred qui dit que son fils est mort, c'est...
Ah, Alfred.
Puis encore une fois, je dirais toujours dans la continuité de Batman qui est voilà, une sorte de... qui est même plus, en fait, on va dire, un super-héros, c'est un mythe.
Oui.
C'est une légende.
C'est vrai, il a son entité, son aura qui pèse sur tout Gotham City, et effectivement, c'est... Ouais, on a l'impression qu'ils en parlent plus comme si c'était un titre qu'une personne.
C'est ça. En fait, l'idée est toujours vivante, alors il faut quand même continuer pour lui, quoi. Juste pour l'idée.
Voilà. Bref, c'est intéressant. J'attends quand même la suite, voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera intéressant, qu'on aura un petit peu... Moi, j'avais beaucoup aimé les épisodes un peu plus sombres, un peu plus polars qu'on avait eu de Kelly Jones à une époque. J'espère qu'on... Bon, mais j'ai l'impression qu'on va plus rester dans du mainstream bien super-héros dans les prochains.
C'est dommage, parce que c'est quand même vraiment Batman qui le perd... Enfin... à mon goût et à mon sens, un petit peu le personnage vraiment qui a cette noirceur.
Oui, puis le côté détective qui était pas mal. Mmh. On avait du polar noir, en fait, dans Batman. Ouais. Du polar noir de super-héros. Bon, on verra ce que ça va donner. Surtout que le polar noir de super-héros a été bien mis à la mode avec les films, quoi. Donc, nous verrons. Mais en attendant, nous changeons d'univers.
Et nous passons à quelque chose de vraiment, vraiment plus léger.
Je n'aurais pas dit ça, je veux dire, c'est la quintessence de la BD, bande dessinée adolescente, c'est le summum, c'est un auteur qui a su se mettre à la portée de son public pour s'adapter à ses goûts et à ses désirs, c'est quand même Brian Michael Bendis, un auteur de génie qui nous fait un fantastique Ultimate Spider-Man numéro 3 avec David Lafleur. Voilà. Wow. Face à cette intro, mon jeune ami, enfin,
ouais,
mon jeune
quoi.
Ami, moins jeune ami maintenant, nous pouvons le dire. Oui, j'ai décidé que comme nous vous voyons, nous avons l'air forcément plus vieux, donc nous avons pris du galon du haut de nos 40-45 ans, n'est-ce pas?
D'accord.
Oui, bon.
Okay. Je n'étais pas au courant quand on était rentré dans une sorte de quatrième dimension, mais il n'y a pas de souci, on peut y travailler, voilà. Alors,
cet Ultimate Spider-Man qui coûte 4 euros regroupe 2 tomes comme à son habitude et continue à avancer dans l'histoire de ce jeune Spider-Man qui, en gros, continue à accueillir du monde chez lui. Bientôt.
C'est l'Arche de Noé.
Ouais, c'est l'Arche de Noé de hey, SOS super-héros en danger. Donc, ils vont rajouter Bobby Drake dans alias Iceman dans leur groupe.
Qui a quand même une belle attitude de loser, en fait.
Oui, oui. Je pense que c'est Brian Michael Bendis qui a voulu bien se faire plaisir en faisant « Hey, on a l'homme de feu! Si on mettait aussi l'homme de glace, ouhou, qu'est-ce qu'on va rigoler !»
Ouais, sauf que l'homme de feu a l'air quand même vachement, mais vachement plus classe, quoi.
Ah ouais, mais c'était un des cas fantastiques, le gars. Il était milliardaire, il se la pétait. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi.
C'est ça, ouais, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est...
Voilà. Bon. En gros, on avance dans l'histoire, on apprend qui est la personne à la cape rouge, ça continue à latter contre le futur Mysterio, voilà. Je crois que j'ai fait un résumé. Le futur Mysterio, peut-être que l'histoire est finie avec lui, mais on ne sait pas
Oh
trop.
Non, ça c'est un... une fin comme ça, c'est pas possible.
Voilà, donc ils nous font une
Enfin,
sorte
tu
de
sais très bien que
pseudo-cliffhanger.
ça c'est la fin qui veut dire en fait qu'il s'est échappé.
Oui, oui. Donc nous verrons bien. C'est en tout cas, c'est light, c'est sympathique. Les dessins, moi j'aime beaucoup hein, les dessins de David Lafuente, ce côté très très manga, très dynamique. Bon, par contre, la couverture, je sais pas, là, ils auraient dû faire quelque chose, mais ils ont choisi le plus moche. On a l'impression qu'ils ont choisi le plus moche de ces dessins qui l'ont agrandi, quoi.
Ouais.
C'est une horreur.
Mais en fait, on aurait peut-être pu le mettre dans la case. Parce que nous aurions peut-être pu le mettre en fait dans la case easy reading, en fait, tellement c'est light.
Oui, mais souvenez-vous, cher ami, nous avons ôté cette case easy reading car certaines choses qui sembleraient pouvoir s'y trouver n'y sont pas forcément en fin de compte. C'est assez délicat comme chose à dire. Mais bon, ça se lit très très vite, c'est sympathique. Et en fait, je crois qu'on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire dessus, tellement c'était grandiose.
Exactement.
Juste pour revenir un point sur, vite fait, le tome précédent, le Batman. L'histoire est quand même un peu complexe à suivre avec tous ces Robin, tous ces Batman, etc. Surtout que l'univers de Batman n'a jamais été très populaire dans nos contrées. Je mettrai un lien sur le site vers le blog Bulle Onomatopée qui fait un bon résumé de qui est qui et qui fait quoi pour les gens qui veulent se lancer dans cette série. Et nous passons maintenant à la bande dessinée Buzz. La bande dessinée qui fait parler d'elle.
L'homme
la bande
skate
dessinée
magique.
Sur laquelle nous sommes partagés. Nous allons parler de Scott Pilgrim vs. The World.
Tome 2. Et là, nous continuons donc à suivre les aventures, les pérégrinations, l'espèce de chemin initiatique, cette quête sans fin de l'amour ultime. Un petit peu dans le style romantique, peut-être. Presque un petit peu chevalier de la table ronde. Hein. Il va affronter donc tous les ennemis possibles et imaginables pour conquérir le cœur de sa Dulcinée.
Mais le plus gros défi auquel il est confronté dans cet épisode, c'est surtout de briser le cœur de
son ex.
Enfin, de sa future ex.
De sa future ex, c'est vrai. Mais elle était super mature pour son âge.
Ouais. Voilà,
elle n'était pas trop jeune, en fait.
Ouais. Bon, on avance, il rencontre un des super ex.
Qui est un acteur.
Ouais, connu.
Super connu, et qui lui tâtonne la tête.
Ah oui, il lui tâtonne la tête.
Mais il a un ego, alors du coup il arrive à le latter en utilisant justement un petit peu le fait que l'autre se pense un peu supérieur et tout.
Et moi, ouais. C'est ça qui m'a plu. C'est qu'en fin de compte, ce combat est tellement bouclé à une vitesse phénoménale que on se rend bien compte que ce n'est pas l'essentiel de cette BD. Que les combats ne sont qu'un prétexte pour montrer l'évolution d'un personnage qui va passer du « je suis resté un môme malgré mes 26 ans, je crois, un truc comme ça. Je suis resté un môme. Et c'est cette relation qui va me faire grandir, qui va me faire devenir un adulte. » C'est l'impression que ça donne. J'ai l'impression qu'on suit un parcours initiatique. C'est en gros, il va devoir affronter ses différents adversaires en mettant à bas son propre ego, en y allant dans la subtilité, la fourberie aussi un peu, pour devenir quelqu'un, parce que c'est une merde Scott Pilgrim au début, ne le nions pas.
C'est vrai, mais en fait je pense que ça le reste toujours. Hein,
c'est une merde sympathique par contre.
Il fait sourire.
Bah ça pourrait être un de nos amis.
Ouais, non, même pas. Non.
Non, je disais pas qu'il ressemble à un de nos amis, je disais que c'est le genre de personne qui aurait très bien pu être dans notre groupe d'amis.
C'est vrai. Voilà. Mais bon, en mettant l'avantage, c'est que peut-être que nos amis auraient su faire du skate.
Ce n'est pas une chose gagnée. J'aime toujours autant, moi, le dessin de Brian Lee O'Malley. Ce côté étrange qui ne fait pas... Comment dire qui fait pas super-héros alors qu'il nous balance quelques combats. On a aussi la future ex qui part en fight aussi. Ça, c'était un beau combat.
Combat de femmes.
Ouais, combat de femmes. Qui se battent pour l'amour du héros. C'est toujours la classe. C'est toujours à suivre, j'ai toujours hâte de lire la suite. Surtout qu'on a le nouveau Super Ex de la mort, on va voir ce que ça va donner. Quelque chose à rajouter sur cette fantastique bande dessinée que moi j'aime beaucoup et que toi tu es plus mitigé. Explique pourquoi tu es plus mitigé que moi.
Déjà, pas tant de familiarité s'il vous plaît. Déjà, je ne pense pas que Scott Pilgrim restera comme la bande dessinée du siècle. Hein. Il n'y a pas non plus un scénario qui me... je reste dessus. C'est vrai que peut-être que j'aime trop les scénarios à tiroir, un petit peu alambiqués. Et là, c'est peut-être trop jeu vidéo pour moi, quoi. Les items qui tombent une fois que t'as tombé le boss. Oh, super, j'ai un skate magique qui me donne un plus 8, mais en fait, je sais pas faire, j'ai pas la compétence skate, donc du coup, je peux pas le prendre.
Oui, toutes ces références à la culture pop, geek,
Ouais, là, je
compagnie.
suis. Non, en fait, disons que ça peut être bien amené dans certains bouquins qui parlent justement des geeks, mais là, c'est un petit peu. Ouais, bof. Ben, voilà. Pas follement enthousiaste sur Scott Pilgrim, les petites pérégrinations qu'il a vis-à-vis justement de ses amours, amourettes, les amours de l'autre, ses anciennes ex, ses nouvelles ex. Ouais, bon, voilà quoi. Autant dans ce cas-là se regarder les frères Scott à la télé, quoi.
Oui, mais
Pardon.
frères Scott ne font pas du skate et ne gagnent pas des pecs quand ils éclatent la tête d'un boss.
C'est vrai, c'est pour ça qu'ils sont moins drôles d'ailleurs.
Voilà, je veux dire, si les frères Scott d'un coup partaient à se battre et à utiliser des super pouvoirs, peut-être que les frères Scott, ça nous plairait.
Ouais, peut-être.
Bon, moi j'attends le film avec impatience, qui est un film qui est voué à l'échec en France, car ils ont eu l'excellente idée de le sortir à peu près en même temps que le DVD américain en France, ce qui fait un beau retard. Sachant que c'est un bon gros film qui va intéresser tous les geeks, c'est-à-dire ceux qui savent très très bien utiliser les systèmes de téléchargement, il est fort probable que ce film soit téléchargé avant d'être vu au Cinoche. Encore une bêtise des distributeurs qui n'ont pas su cibler leur public à mon goût. Et c'est fort dommage parce que c'est un film que de toute façon j'irai voir.
Et
Voilà.
Adopi agira alors.
Exactement. Mais de toute façon, moi je ne crains rien car j'ai Open Office, donc j'ai un pare-feu, ils ne me trouveront jamais. Nous passons à la suite avec The Boys. The Boys numéro 7, déjà.
Déjà, le tome
Ça
7.
sort régulièrement, hein, The Boys, c'est pas mal.
Bah déjà, c'est bien qu'il arrive à garder une bonne.
Enfin, d'un autre côté, en nous faisant des demi-arcs par tome, c'est assez facile.
Il se foule pas trop.
Voilà. Comparons les tarifs, nous avons 4 épisodes dedans pour 11 euros. Nous avons 4 épisodes dans le Batman pour 4,60. La qualité du papier n'est pas la même, l'édition n'est pas la même. Il y a des chances pour que The Boys se vende moins bien que Batman, même si j'ai un petit doute.
Là, j'ai un gros doute quand
Ouais.
même. Et puis, vu la pub que fait notre site, je pense que
Bien.
même Panini devrait peut-être nous reverser des royalties.
Et nous avons donc dans cet épisode de The Boys, nous continuons à suivre les aventures
Le petit Huggy.
de petit Huggy, qui est dans une situation délicate.
Il est toujours chez les G-Men.
Les G-Men.
Mais la version, les Young G-Men.
Les G-Wiz.
Les G-Wiz.
en infiltration.
Toujours.
Sauf que il a posé les micros, mais il est possible qu'il se soit fait repérer.
Et il a posé trop de questions.
Voilà. Et là, le problème, c'est qu'il s'est attaché à ces gars. Parce que c'est vrai que c'est des merdeux, mais
Mais ils sont sympas.
ils sont sympas. Et on reste dans du trash à la The Boys. On va peut-être reposer le contexte, on a omis de le faire. The Boys suit les pérégrinations d'une équipe de personnes qui n'ont pas de super pouvoir et qui surveillent les personnes à super pouvoir pour contrer leurs excès dans la vie de tous les jours, car dans cet univers, et c'est ce qui se passe dans la plupart des univers de Garth Ennis, les super-héros ont du pouvoir et donc en abusent. C'est un résumé de la série rapide.
Mais un bon résumé.
Et donc, petit Huggy vient de rentrer dans l'équipe et a sa première mission solo, qui est donc d'infiltrer les G-Wiz, une équipe qui est inspirée grandement des X-Men, pour essayer de savoir ce qu'ils ont de louche.
Et en parallèle, on a donc une enquête pour justement une
G-Men.
des G-Men qui s'est suicidée toute seule. D'ailleurs, c'est quand même très difficile de se suicider à deux. Mais donc se suicider toute seule, déjà, c'est quand même énorme. Elle a réussi à faire donc ça avec ses propres pouvoirs. Et bon, voilà. Et donc du coup, ils enquêtent là-dessus pour savoir justement
Excusez-moi,
ce qui s'est passé.
monsieur, je me gosse. Oui.
Je pourrais utiliser d'autres mots, mais nous allons rester assez sobres.
Nous apprenons ce qui s'est passé. Ce que j'ai trouvé de très intéressant dans cet épisode, c'est qu'il est beaucoup plus fin que ce à quoi on pourrait s'attendre. On arrive à s'attacher à ces personnages, on arrive à se mettre à la place de petit Huggy qui doit prendre des décisions difficiles. Qui, entre guillemets, se trouve une espèce de famille, hein, on va dire, c'est un peu ce côté-là, de communauté plus que de
De
famille, quoi.
communauté, ouais, parce que enfin sa famille,
Oui.
ça commence vraiment à devenir quand même le groupe.
Et en fait, quand on apprend la triste histoire des G-Men, on commence même à avoir pitié d'eux. Et sauf que dans The Boys, il n'y a pas de place pour la pitié. Et c'en est encore plus dur. Et la scène finale, bah, avec les BBs...
Ouais, mais tu te dis que voilà, quoi, c'est que commercial.
Que l'existence des super-héros n'est que commerciale.
L'existence des super-héros n'est que commerciale. Bref, et sans ça, rien. Donc du coup, les G-Men disparaissent. Spoiler, désolé. Donc on va avoir donc une grosse restructuration chez les super-héros. Et les 7 vont devoir maintenant entièrement assumer l'aspect financier, parce qu'il n'y a que eux qui vont pouvoir faire des rentrées d'argent.
En vendant les produits dérivés, les comics et compagnie. Voilà, donc c'est un très bon épisode. J'ai vraiment apprécié, parce qu'on a l'impression que ça montre que cette série est plus mature et plus réfléchie qu'elle n'en a l'air, au-delà de son aspect provoque. Et c'est très sympa. Derek Robertson fait encore un travail honnête au dessin.
Oui, tout à fait. Là, ça reste, on va dire, sur la même lignée que les précédents.
Surtout qu'il doit se dessiner un gros paquet de monde, là, pour le coup, parce qu'il y a des flopés de super-héros. Ouais. Il se fait quand même remplacer par John Higgins sur certaines pages, qui a un style un petit peu plus... avec un ancrage un peu plus sombre, un style un peu plus réaliste, un côté un peu moins comique dans les traits des personnages, qui je trouve que ça passe un peu moins bien. Mais bon. Voilà, donc The Boys chez Panini Comics, le tome 7 à 11€.
Et donc nous passons à la suite. Daredevil. Et là, c'est le tome 20, le retour du roi.
Le tome 20.
Donc, toujours par Brubaker et Lark,
et
qu'on a déjà suivi précédemment.
C'est la fin de leur arc narratif. Ils vont laisser la main pour les tomes suivants.
Et... ils vont laisser la main.
Mais c'est un jeu de mots involontaire de fort bon goût.
Je ne serais peut-être pas allé jusque-là, mais quand même.
Oui, bien...
Donc, la main, justement, est donc venue un petit peu semer la zizanie dans la vie d'un Daredevil qui avait vraiment besoin de ça, parce que tout va bien pour lui.
Ça fait combien de numéros qu'on suit sa déchéance ?
Je ne peux plus compter, en fait.
Depuis Kevin Smith, en gros, hein, depuis, ça doit faire une centaine ou bien 200 presque de numéros qui souffrent. Hein.
Oui.
Et alors, il avait commencé avant, mais il y avait eu des moments que ça allait mieux, mais là il n'y en a pas eu.
Là donc nous sommes donc dans le numéro aussi où on a l'épisode 500 de Daredevil.
Oui, alors avec chose.
Une couverture.
De la mort.
De la mort. Ça, je veux dire, là, faut le dire.
Oui, Marco Giudice. Alors il faut savoir que ce numéro 500, c'est un peu particulier. J'ai oublié le nom de l'éditeur. Ah, Joe Quesada avait créé le label Marvel Knight avant de devenir l'éditeur en chef chez Marvel, donc le gros chef de qui décide tout ce qui se fait. Il avait lancé Daredevil chez Marvel Knight et c'était reparti au numéro 1.
Oui.
Même si apparemment c'était un truc qu'on lui avait imposé, il s'était toujours arrangé pour cacher, Kevin Smith et compagnie, c'était toujours arrangé pour cacher le vrai numéro de la série. C'est reparti au numéro 1 et ça a continué au numéro 1, au numéro 1, au numéro 1. Et puis là, comme en accumulant les premières versions de Daredevil et les deuxièmes, ça arrive au numéro 500, ils se sont dit qu'il fallait quand même marquer le coup. Ils reviennent à la numérotation originale, ce qui fait qu'on passe d'un coup du numéro 119 au numéro 500. Voilà, donc il n'y a pas eu un gros warp de disparition, c'est tout à fait normal. On a la fin d'un arc. Alors, les dernières personnes à avoir fini un arc, c'était... c'était Bendis,
ouais.
Emma Alev, qui avait fait quelque chose d'assez sympathique. Brubaker, tu avais été un petit peu circonspect sur son arc pendant un bon moment.
Enfin, pas que... Oui, enfin non.
Ouais, t'avais pas été fan, quoi.
Non, j'étais pas fan, parce que justement, je disais que ouais, il va y avoir une fin, sans doute, qui va nous transcender, mais il faut vraiment qu'il arrive au bout, parce que je me faisais un petit peu suer.
Quand vous trouvez qu'il a mis un peu trop de temps à poser ses pions et ses pièces?
Mais disons que la révélation est énorme, certes, mais ouais, bon. Disons qu'entre les deux, entre le début et la fin, il ne s'est pas passé grand-chose quand même.
Bah, justement, où en est Daredevil au début de ce tome?
Au début de ce tome, il a donc plus de femmes. Bon, ça c'était déjà d'avant. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a une procédure pour récupérer la garde légale de la femme qui est... qui est un petit peu en hôpital psychiatrique.
Oui, suite à l'utilisation de certains produits.
Par, donc, ses beaux-parents, non, pas l'épouvantail, Mr. Fear. L'épouvantail, c'est dans un autre univers. Assez proche, mais un autre univers.
Ah, un autre univers, je suis désolé. Mais là...
Donc, oui, il y a un peu cette guerre-là. Il s'est tapé Dakota, mais donc qui est détective privé qui bosse pour lui, mais c'est un petit peu du je suis désespéré.
Elle est désespérée.
Si nous en profitions, dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, et donc forcément, il y avait un détective privé qui a pris des photos pour les parents de la femme.
Mila.
Pour les parents donc de Mila. Et forcément, donc là, Daredevil, il n'a plus d'amis, il ne parle à plus personne. La main, en même temps, qui est aussi en train de mettre un petit peu le souk dans la...
Oui, on lui a envoyé Lady Bullseye pour lui latter la tête dans le tome précédent.
Avec le retour aussi, donc, quand même, dans ce tome du Caïd.
Oui.
Qui avait donc pris sa retraite, qui avait laissé la ville à Daredevil. Et on va dire que la main fait que le Caïd va revenir...
Oui, la main a décidé de bien fracasser la tête, enfin bien chercher l'époux au caïd. Pourtant, ça devrait être facile de trouver l'époux du caïd. Oui, il est chauve.
Je vous remercie de le préciser, je ne m'en étais
ah, d'accord.
Pas aperçu.
Non, je vous voyais circonspect. Et donc, le caïd revient et on ne sait pas trop pourquoi. On va dire que... La couverture qui est mise en quatrième de couverture, qui montre le Daredevil et le caïd qui se serrent la main dans un cimetière, genre on va bien se mettre d'accord, on va bosser ensemble.
Non, celle-là, elle pète.
Ce sont des couvertures de Marco Djurjevic pètent toutes. Elles sont toutes énormes.
Oui.
Ce dessinateur est fantastique. Je ne pense pas qu'il tiendrait sur une série complète. Puis d'ailleurs, je ne suis pas sûr que son style sera adapté à la série.
Non, parce que je pense qu'il a un style qui est... Enfin, du coup, quand on voit ses couvertures, c'est trop... Il fait dans trop de trucs différents.
J'ai trop travaillé. D'un autre côté, on avait vu une BD il n'y a pas longtemps de dessinée par lui. Qui avait été... c'était dans un des Daredevil, où il avait dessiné quelques pages qui étaient un peu moins efficaces. Bon. Donc, en gros, tous les pions se mettent en place pour préparer le final. En gros, le... Hey les mecs, j'ai fini de travailler sur Daredevil, prochain scénariste, démerdez-vous avec la merde dans laquelle je vous laisse. C'est bien résumé, hein.
Oui, enfin, comme chaque fin d'arc quasiment, voilà. Avec maintenant, parce que tout le monde se dit, écoute, étant donné que moi j'ai commencé, j'étais dans la panade, autant que le suivant fasse de même.
Voilà. Tout ce que j'espère, par contre, c'est que le suivant, comparé à Brubaker, ne va pas. Va plus utiliser ce qu'a fait Brubaker.
Oui.
Parce que. Brubaker, quand il a repris derrière Bendis, avait fait un truc tout bête, il a remis les choses au point. Il a passé tout un arc à dire allez hop, on va remettre les choses comme si de rien n'était, que tout aille bien.
C'était un peu dommage qu'il n'y ait pas de continuité.
S'il y avait Mila qui servait de continuité quand même.
Oui, mais enfin, c'est ce que j'expliquais au début, c'est que voilà, Brubaker est arrivé, ouais, ok, super. On avait une très très bonne histoire de Bendis, et ce qu'a fait Bendis, ça ne me convient pas super bien. Je vais me remettre tout à plat dans mon sens. On revient à Daredevil qui est gnangnang et voilà. Voilà. Chiant, disons-le. Et il nous fait un scénario, un petit arc, maintenant pour refaire son truc. Mais bon, oui, s'il n'y a jamais.
Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis sur le côté gnangnang.
Oui, mais s'il n'y a jamais de suivi dans les arcs, il y a un moment où, si à chaque fois tu repars de zéro, on n'avance jamais, quoi.
C'est aussi le problème, je crois, de la bande dessinée américaine en général, avec ces séries qui ne s'arrêteront jamais. À un moment donné, si on ne... On sait très bien que, par exemple, dans le Batman va finir par revenir, le vrai Bruce Wayne. Je veux dire, c'est une évidence.
C'est une évidence, je suis
d'accord. Qu'on va revenir au statu quo à un moment ou un autre.
Oui, mais sauf que du coup, les querelles de clocher avec... mais moi je préférais le Daredevil de machin, puis non, en fait, le Batman de cette époque-là était fantastique, tous les autres sont pourris.
De toute façon, moi, mon préféré, c'est le Daredevil de Miller et le Batman de... Mais c'est le même.
C'est le même. Oui. Ouais.
Voilà. J'avoue que c'est peut-être pas forcément. Daredevil de Miller.
Daredevil de Miller, non. Non.
Ah ouais, ton préféré, c'est celui de Bendis.
Ouais, celui de Bendis.
Et donc, c'est très bien. Franchement, ça clôt les choses de façon très intéressante. On a envie de voir la suite avec impatience.
On a envie de voir la suite.
Voilà, et la suite qui commence dans Dark Reign hors série numéro 2, The List. c'est un recueil classique dans l'univers Marvel, Dark Reign, machin chose, etc. Et il y a une aventure de Daredevil, scénarisée par Andy Diggle, qui sera le futur scénariste de la série régulière Daredevil. Andy Diggle, qui est connu pour avoir fait The Losers, qui a été adapté en film il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Une espèce d'agence touriste, mais moderne.
Ouais, mais là, j'ai raté.
Voilà.
Oui, enfin, si, non, j'avais lu un truc dans... Comic Box.
Oui, ils ont sans doute parlé dans Comic Box.
Ou dans Geek Mag, je ne sais plus.
Enfin, Losers, ils avaient fait un versus dans
un versus
Geek Mag
entre.
Voilà. Et qui avait l'air très sympa. Et donc, bon, c'est un recueil de quatre histoires très variées qui ont comme unique point commun que Norman Osborn, qui est désormais le gars qui contrôle l'univers Marvel, décide de se débarrasser des gens qui l'ennuient et a fait une liste. Chaque tome se concentre sur une des personnes ou un des groupes sur la liste de Norman Osborn. Les histoires sont assez indépendantes en fin de compte. Elles font appel en général à des acteurs, à des auteurs talentueux. Souvent, en tout cas, je trouve que ce sont des auteurs talentueux, mais très variés, avec des tons très variés. Et le principal défaut de cette bande dessinée, c'est qu'elle est sortie 3 mois avant le Daredevil numéro 20. Non, pas 3 mois, mais 1 mois. Non, 3 semaines, pardon, avant le Daredevil numéro 20. En gros, elle nous dit tout ce qui se passe dans le Daredevil numéro 20. Donc, en gros, il fallait bien attendre pour le lire avant de lire le Daredevil si on ne voulait pas être spoilé dans tous les sens. Voilà pour résumer.
C'est exactement ça.
On va commencer à parler de l'histoire du Daredevil, hein, rapidement, parce qu'elle est la suite directe. Mais il va falloir qu'on évite de spoiler, justement, pour les gens qui veulent lire le Daredevil. Ouh, ça devient compliqué. Daredevil a pris ses nouvelles fonctions. Hein, ça va, j'ai pas trop spoilé.
Oh, j'ai rien compris.
Voilà, bah, c'est bien. Hein, il a pris ses nouvelles fonctions, tu es d'accord?
C'est ça. Et il est devenu le nouveau président d'une multinationale.
Oui. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Norman Osborn envoie pour s'en occuper Bullseye, qui se fait passer actuellement.
Comment ça, c'est Œil de Faucon?
Oui, qui se fait passer actuellement pour Œil de Faucon dans l'équipe de Vengeurs de Norman Osborn. Et il est trop content, Bullseye, parce que... Ah, voilà, il aimerait bien... Il doit pas savoir qu'il a une femme. Sinon, il serait pas allé le voir.
C'est vrai.
Il serait occupé directement de sa femme.
Il faut pas tout savoir.
Voilà. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très sympathique. Un truc m'a choqué, c'est qu'on a un dessinateur plus mainstream.
Au début, sur les X-Men, ouais.
Non, je te parle du Daredevil, de l'histoire de Daredevil.
Oh non.
Oh, on a un dessinateur plus mainstream avec un style qui fait plus penser à du Topco, quoi, à ce que sortait Topco à une époque. Comment s'appelle ce dessinateur déjà?
Billy Tan, je crois.
Ouais, Billy Tan, ah, oui, ça peut faire que penser à du Topco. Monsieur Billy Tan a commencé chez Topco comme un malade. C'est un clone de Mark Silvestri au départ. Et là, il y a ce côté-là, et je trouve qu'on a un style beaucoup plus super-héroïque qui, quand on est habitué à avoir lu plus de 100 numéros dessinés par Malev, Lark, ça choque. Ça fait quand même quelque chose de très différent.
Oui, non. Sans avis, allez hop.
Sans avis. Qu'as-tu pensé de ce prélude, hein, à la suite de Daredevil? On va rester dans Daredevil, après on va parler plus brièvement des autres histoires.
Un prélude qui me fait un peu peur, parce que du coup, tu vois, on en parlait il y a 2 secondes, c'est que justement, je sens bien qu'on va revenir à un...
Statu quo ? On
va revenir aux sources, voilà. Ça va durer 2 tomes et...
Ouais.
Le nouveau scénariste va nous faire « Hey les gars, vous savez quoi ? On revient à ce qu'il y avait avant, comme ça du coup, moi aussi j'ai les bases tranquilles. »
Alors, je crois que non.
Écoute...
Je crois que non pour une raison très
simple. Si cette personne me fait rêver... Je valide, mais là pour l'instant, je le sens arriver.
Bon, la série Daredevil va reprendre bientôt au numéro 1 aux États-Unis. Oui, oui, monsieur.
Donc
je pense que. Oui, oui, non, mais après le run de Diggle, qui va être un crossover avec un peu les super-héros urbains. Je sais que c'est ce qui est prévu, ça s'appelle Shadowland. Je ne sais pas exactement ce que ça va raconter, mais ça va être un crossover avec les héros urbains de Marvel, donc on va dire Daredevil, un peu tous les personnages qui sont développés dans Daredevil. Apparemment, c'est un crossover autocontenu dans Daredevil. Enfin, Iron Fist, peut-être, qui va faire un tour, ce genre de truc-là. Et apparemment, ils vont encore plus exploser le statu quo, et ce Shadowland, je pense, part un peu de la situation qu'a mis en place Brubaker.
Oui,
bon, tu doutes.
Qui vivra, verra.
Les autres histoires, on a donc droit à une fabuleuse histoire par l'excellent dessinateur Alan Davis avec Namor. Toi, tu trouves pas excellent Alan Davis?
Ouais, voilà, là je suis un peu plus mitigé.
L'excellent dessinateur des années 80, Alan Davis.
Ah, voilà, c'est ça. Excellent, les années 80. Hein, parce que...
Oui, non, c'est un excellent dessinateur, mais c'est vrai que son style a un peu vieilli.
Oh non, non, non. Ouais, ah, bah, et moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, j'ai 12 ans.
Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait des choses bien. Et au scénario, c'est que je me souvienne...
Matt Fraction.
Matt Fraction, voilà.
Une fraction.
Matt Fraction.
Fraction. Non.
Voilà.
Frac.
Bon, c'est... On va dire que c'est un épisode un petit peu passable, qui n'a d'intérêt que si on suit un peu les histoires des mutants et encore.
Oui, même pas.
Voilà.
Par contre, une histoire qui est vraiment, je trouve, intéressante, c'est l'histoire de Hulk.
L'histoire de Hulk. Alors, on a Greg Pak au scénario et Ben Oliver au dessin. Alors, Ben Oliver, moi, j'aime beaucoup. On l'avait vu sur... il n'avait pas dessiné dans Ultimate Fantastic Four, Ben Oliver, il me semble.
Il me semble, oui.
J'aime beaucoup son dessin. Greg Pak a fait quelque chose de très sympathique sur le Hulk. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. En gros, j'ai découvert que Bruce Banner n'est plus Hulk.
Mais du coup, ça me donnait presque envie de revenir un peu sur l'histoire de Hulk, parce que ça avait l'air vachement intéressant.
Et il a son fils et compagnie qui arrivent et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'ils redeviennent Hulk pour le buter.
C'est ça.
Voilà. Mais en attendant, il l'aide. Enfin, c'est très étrange.
Oui, parce que s'il ne survit pas, il ne pourra pas lui casser la bouche.
Voilà. Bon, le dessin, je le trouve exceptionnel. L'histoire, très, très sympathique. Bon, c'est assez basique hein, quand même. Hein. C'est Norman Osborn qu'on voit de quoi leur péter la gueule et ils essaient de résister. Hein. Mais bon, c'est un bon divertissement et ça intrigue beaucoup sur ce qui se passe sur Hulk parce que pour le coup, on a un peu la tête et les jambes. Bruce Banner est redevenu quelqu'un d'assez fragile, sauf que c'est aussi redevenu un putain d'inventeur. Chose qui était souvent mise un peu de côté. Et enfin, la dernière histoire revient aux fondamentaux avec notre cher ami Spider-Man avec des dessins de Kubert, lequel c'est Adam, je crois. J'arrête pas de les confondre, c'est une
horreur. Adam.
Ouais, c'est Adam Kubert. Adam Kubert et au scénario Dan Slott, si je me souviens bien.
Ouais. Quelle mémoire.
Bah pareil, en gros, là on sent qu'on arrive à la fin de Dark Reign en fait. Ils sont en train de vouloir finir ce crossover de la mort, enfin cette époque de la mort, parce qu'on n'est plus vraiment dans le crossover. Chose intéressante, c'est Peter Parker en fait qui agit plus que Spider-Man.
Voilà, ben c'est le journaliste.
C'est le journaliste d'investigation.
C'est le journaliste d'investigation qui va donc aller justement essayer de trouver de l'info pour discréditer Norman Osborn.
Et en gros, on a un combat Osborn-Parker et pas Osborn-Spider-Man. Et c'était assez intéressant. Bon, disons que ce que dire en général de ce volume, vaut-il, c'est 5,40€.
Oui.
Oui, si pour moi, on va dire que c'est assez moyen. L'histoire de Daredevil, on se sent un peu obligé pour la continuité. C'est pour ça que je l'ai acheté, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour l'histoire de Daredevil, parce que plusieurs sources m'ont dit qu'il fallait le lire. C'est un bon divertissement, sympathique, qui fait un petit peu avancer l'intrigue.
Mais surtout qu'il a envie de lire d'autres séries, peut-être.
Oui. Bah, je crois qu'il a ce défaut-là, c'est qu'il est un peu trop ancré sur Dark Reign. Un peu trop lié à Dark Reign pour qu'on comprenne ce qui se passe derrière.
Enfin, c'est sûr qu'il faut avoir. Enfin,
disons que toutes les séries de l'univers Marvel sont liées à Dark Reign. Si tu regardes le Spider-Man, le Daredevil, par contre, le lien avec Dark Reign, il est super limité. Hein. Le seul lien là qu'ils ont réussi à trouver, c'est de dire Bullseye, va taper Daredevil. On n'est pas vraiment. Enfin.
Ouais, non, il y a rien.
Je veux dire, Daredevil, Osborn, t'as l'impression qu'il s'en fout un peu. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a entendu parler du fait que soit Osborn le maître du monde dans les Daredevil? Pourtant, c'est en parallèle hein, que ça se passe.
Hein. Oh ouais, tout à fait, mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien.
Donc, voilà pour ce Dark Reign hors-série numéro 2. Eh bien, très cher ami, nous allons pouvoir passer à notre intégrale. Très cher ami, que je vous tutoie, car la moitié du temps, je vous vois, l'autre moitié, je tutoie. On n'est pas très fort hein, sur ce coup.
Peu pertinent. On n'est pas bon.
Notre intégrale va porter sur Révélation.
Vieille bande dessinée maintenant.
Ah oui, elle a 5 ans.
Au moins. De chez Soleil.
Oh, de chez Dark Horse.
Aussi.
Révélation est la traduction de la mini-série en 6 tomes de Paul Jenkins et Humberto Ramos. Nous allons commencer par parler un petit peu des auteurs pour les situer. Alors, Paul Jenkins est un auteur britannique. qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui a pas mal travaillé chez Marvel. Par exemple, il avait lancé la mini-série chez Marvel Knight sur les Inhumains, qui était une mini-série très sympathique. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il a travaillé aussi un petit peu sur l'univers Topco. Il a fait du Spawn. Il a fait ce qui était très intéressant. C'est un scénariste qui travaille beaucoup en général sur le côté psychologique des personnages, qui essaye de s'y tenir à ce côté psychologique, un côté assez sombre. Jenkins est aussi le créateur de Sentry. Voilà, ce qui est pas rien en soi. Donc toujours dans ces histoires psychologiques, hein, là, on est à donf. Hein, que j'aime bien. Donc il a travaillé sur moult séries, pas mal chez Marvel. Je ne vais pas.
Hellblazer,
Oui,
Spider-Man.
oui. Il s'est fait connaître par Hellblazer. D'ailleurs, bah, c'est la série qui a fait connaître beaucoup de scénaristes britanniques, on va dire. Hein. Voilà. Umberto Ramos, que je connais un petit peu mieux, est un artiste que j'adore. Il a été source de conflits avec mon frère à l'époque. J'adorais mon frère, trouvait qu'il savait trop à dessiner, car il faisait des pieds énormes. C'était sa marque de fabrique dans ses jeunes années. Il a commencé un peu chez DC à faire 2-3 trucs comme Pulse, c'était en gros un jeune Flash, un truc comme ça. Bon, on n'a pas trop connu ça en France. Par contre, on a pas mal. Il avait travaillé sur X-Nation 2099, une sorte de pseudo-série X-Men dans le monde 2099, ça n'a pas duré. Mais surtout sur DV8, le pendant obscur de Gen 13, donc chez Image Comics, qui était scénarisé par Warren Ellis. C'est une série qu'il a pas mal fait découvrir, et puis ensuite bon, il a continué à faire diverses choses comme du Spider-Man, du Wolverine. Disons que il a un peu cartonné. Et puis il a créé sa mini-série, donc en Creator Own, Need, chez Dark Horse, mini-série en 6 volumes, qui est donc traduite en 2 tomes en France. On va parler d'abord du scénario, hein, on va s'intéresser à Paul Jenkins. Vas-y, je te laisse la parole, parce que là, je vous laisse la parole, car cela fait trop longtemps que je parle.
Donc, nous allons suivre une aventure, une enquête de Charlie Northern au Vatican. Charlie, en fait, est un enquêteur de.
Scotland Yard.
Et donc, il est appelé au Vatican par un ancien ami à lui, qui s'est débrouillé justement pour qu'il puisse enquêter sur un décès au
C'est parce
Vatican.
qu'il est cardinal, hein, l'ancien ami.
Oui, il est cardinal, mais donc, du coup, il s'est quand même arrangé, parce qu'a priori, le Vatican étant un territoire totalement
Oui.
autonome, il n'avait aucune raison d'avoir un enquêteur anglais qui vienne jeter ses petits trucs là-dedans. Et donc, notre Charlie Northern va se retrouver dans un imbroglio, on va dire, au Vatican, avec des cardinaux qui ne veulent pas l'aider, des gardes suisses qui ont des secrets, ainsi de suite. Et on va dire une sorte de conspiration à l'intérieur du Vatican, scénario assez étonnant.
Surtout qu'à l'époque de la sortie de cette BD, il y avait un roman qui cartonnait, qui allait être adapté en film.
Ta 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 ta.
Par Ron Howard, le film, je crois bien.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Da Vinci Code, ça n'a rien à voir, ce n'est pas Howard the Duck. Et donc, voilà, c'est une bande dessinée sur, scénaristiquement sur la foi. Notre héros est un personnage qui a perdu la foi.
Suite au décès de ses parents.
Alors qu'il l'avait, qu'il était très religieux, et qui a plus que perdu la foi, est devenu un anticlérical,
Ouais.
limite.
Mais parce qu'à partir du moment où, en fait, pour lui, on n'a pas de preuves, on ne peut pas avoir la foi.
Sauf que c'est ce qu'on lui dit tout du long, tant qu'il ne retrouvera pas la foi, il ne pourra pas comprendre ce qui se passe, et il ne pourra pas résoudre son enquête. Et donc on suit un peu son chemin de croix, on peut le dire, vers la foi.
Oui, oui,
Ouais.
oui.
Et puis quand il finit par l'avoir,
Bah, en fait, finalement, c'était peut-être mieux quand il l'avait pas.
voilà. C'est très intéressant au niveau. On est toujours dans quelque chose de très psychologique. Hein. On est on est dans du polar, dans du thriller. Mais la psychologie des personnages est bien pensée. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que les méchants ne sont peut-être pas si méchants que ça. Oui, hein.
Oui, c'est voilà.
C'est très ambigu. Il n'y a pas de. Alors que pourtant, pendant quasiment tout le truc, ça a l'air d'être des beaux salauds.
Enfin, disons que ça dépend de quel côté on se range.
Oui.
Ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie de comprendre, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter. C'est voilà, si le diable, on va dire, un petit peu, il enrobe tout ça avec du miel, du sucre, ben, ça donne un peu plus envie quand même. Du coup, forcément, on se dit que bon, il est peut-être pas si méchant. Bref, pas le mal.
Voilà, une série intéressante. D'autant plus intéressante pour ses dessins. Ramos, qui a un style très cartoony, on peut pas le nier quand même, hein, très cartoony, a eu quelque chose d'assez étrange. Alors, quand il travaillait sur le jeune Flash, ça collait bien. Quand il a travaillé sur DV8, qui est une série un peu trash par Warren Ellis, ça faisait un peu bizarre d'avoir ses dessins cartoony trash. Mais bon, ça passait pas mal. Et là, il est dans du thriller, quoi. Un thriller avec des dessins cartoony, ça pourrait choquer. Sauf qu'il y a eu une approche graphique très intéressante, même s'il n'a pas changé vraiment son style. J'ai l'impression qu'en fait, ça a été colorisé directement sur ses crayonnés. On cite pas souvent les coloristes, mais là,
Leonardo
Olea, qui est un de ses coloristes officiels, il a fait beaucoup de choses avec lui. Ça a donc été directement colorisé sur les crayonnés et ça fait un rendu très très sympathique. Le côté sombre est bien respecté. Et en fait, le fait que les personnages aient un petit côté cartoony fait qu'on s'identifie à eux un peu plus facilement, je trouve. Le personnage principal. Alors, il y a un seul truc que j'ai essayé de comprendre dans le style graphique. Un truc très particulier. J'ai pas compris pourquoi. Le héros a les yeux noirs. Mais noirs. Hein. C'est-à-dire que le blanc des yeux est noir.
Oui.
Certains personnages ont les yeux noirs, mais pas tous. J'ai essayé de comprendre, de trouver le sens, et si quelqu'un peut le faire pour moi, ça serait vachement bien. Donc si vous avez une réponse à cette interrogation, s'il y a une analyse que j'ai ratée, un point important, genre que ce soit un indice majeur dans la compréhension de cette bande dessinée, faites-le nous savoir, parce que ça m'a intrigué. Alors c'est peut-être juste une trouvaille graphique qu'il a éclatée comme ça. Le fait que ce soit imprimé en grand format, alors que c'est du comics à la base, est très intéressant, parce que les planches sont parfois assez fouillées, ça colle très très bien. Que dire d'autre sur ce dessin déjà? Bon, toi, tu t'es à fond dedans. Hein, c'est toi qui avais proposé qu'on fasse la révélation.
L'ambiance du dessin fait aussi, on va dire, toute la réussite du scénario. Ensuite, on peut rajouter tout ce qui est couleur qui en y rajoute encore. Et puis au niveau dynamique des cases, dynamique des pages, c'est waouh quoi. Puis bon, on est vraiment dans du polar avec vraiment. Enfin, j'ai trouvé tous les choix sont excellents. Il y a aucun moment où je me dis.
Jusqu'au lettrage d'ailleurs.
Ouais.
Le fait de faire des bulles noires dans les scènes de conspiration.
C'est tout un ensemble.
Des bulles blanches derrière. Enfin, c'est assez bien foutu.
Les couvertures sont, je trouve, sont à tuer quoi.
Oui, il y a un côté fausse mosaïque très bien rendu. Je sais pas comment ils ont fait ça. Je sais pas si c'est du traitement informatique ou des heures de travail, mais ça rend très très bien.
Voilà, c'est.
Bien, donc ce révélation est très sympathique, c'est une histoire complète en deux tomes, je n'ai plus les tarifs en tête, mais un intégral est sorti qui permet d'avoir les deux tomes en une fois.
Oui, mais je crois que l'intégral, je trouvais un petit souci, c'est qu'il propose juste la couverture de l'intégral, c'est la couverture du tome 2.
Mmh.
Soit ils auraient pu faire une nouvelle couverture ou alors c'est un peu dommage.
Ouais, ils ont peut-être mis toutes les couvertures à l'intérieur.
Ah non, elles sont à l'intérieur, je l'ai pas ouvert. Ouais. Mais c'est vrai que juste l'aspect extérieur, tu te dis bon, c'est la même couverture que le tome 2, c'est un peu dommage.
Oui, effectivement, vu comme ça.
Ça, c'est encore un petit coup de soleil, mais enfin bon.
Que dire, c'était un très bon choix de traduction hein, chez Soleil, en tout cas.
Eh bien, passons donc à la suite qui va nous amener donc.
Online.
Sur le online. Et vous allez donc nous parler de Order of the Stick.
Order of the Stick. Alors, je vais en parler seul et abandonné, car mon cher compagnon de podcast ne l'a pas lu. D'un autre côté, il aurait 745 planches à rattraper.
En même temps, vous m'avez prévenu, il y a seulement environ, là je regarde ma montre, environ 60 minutes que nous allions faire Order of the Stick, ce qui fait que quelque part j'avais déjà un petit peu court au niveau timing pour réussir à rattraper mon retard.
Oui, c'est vrai. Order of the Stick est donc une bande dessinée de Rich Bellew, diffusée intégralement sur Internet, qui raconte les aventures d'un groupe d'aventuriers qui doivent lutter contre un grand méchant, une grande méchante liche, donc un mort-vivant squelette, machin chose. Et puis voilà, c'est très humoristique, c'est très inspiré du jeu de rôle. L'humour joue beaucoup parfois sur le décalage avec la réalité, c'est-à-dire que les personnages sont conscients d'être dessinés, d'être des personnages de de jeu de rôle en fin de compte. De temps en temps, à un moment, ils sont en train de discuter, d'un coup, on entend un peu à la Naël Buck, on entend un pitch parce qu'ils ont pris un peg.
Déjà, quelque part, le pitch de départ, c'est un petit peu quand même. Enfin, je sais pas lequel précède l'autre, mais ça fait un peu penser à la première histoire de Naël Buck avec le roi Lich et le château. Hein.
Oui, oui, bah, je pense que c'est eux qui précèdent. C'est
Pain of Chaos, apocopie.
Oui, enfin, d'un autre côté, si on veut faire une histoire basée sur un peu de la parodie de John Roll, c'est un peu la base. Il joue beaucoup aussi avec les codes narratifs, dans le sens où, par exemple, dans une des dernières aventures, les héros se retrouvent comme gladiateurs. Et leur entraîneur leur explique comment ça va se passer. Alors il leur explique que forcément il y a les plus forts qui vont vouloir piquer des bouts de pain à l'autre, mais l'un d'entre eux va vouloir s'interposer et une amitié forte va naître entre ces deux hommes. Et par contre, il faut faire attention à la peau sèche et il va falloir qu'il suile tout constamment le corps car il fait chaud dans l'arène. Enfin bon, bref. Ils se sont fait un gros délire sur les clichés homosexuels qu'il y a dans les films de gladiateurs. Et ils s'amusent beaucoup à jouer là-dessus assez régulièrement. L'histoire est très bien foutue. Alors, il y a des passages qui sont mieux foutus que d'autres. Mais surtout parce qu'on a une équipe qui est assez intéressante. Donc, dans l'équipe, nous avons d'abord Varsuvius, qui est un magicien elfe au sexe indéterminé. Personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Bon, c'est un elfe après tout. Hein. Voilà. Qui, lui, ne vit que pour aller au fond des arcanes de la magie et découvrir comment marche le monde pour pouvoir être un des plus grands magiciens du monde. Donc quelqu'un d'un peu ambitieux, quoi. Ça lui jouera des tours. Nous avons Allée, qui est la voleuse du groupe, qui, elle, essaye de réunir de l'argent pour payer la rançon de son père qui a été enlevé. Et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est bien sûr de devenir aventurier. Nous avons Durkon, le nain, qui parle avec un accent super dur à comprendre, surtout que c'est de l'anglais et qu'ils écrivent l'accent, et qui lui, bah, c'est le pragmatique du groupe. Il explique que les nains, d'ailleurs, ont une très très grande peur, c'est qu'ils sont persuadés qu'un jour les arbres vont les attaquer, et que donc ils ont une sorte de phobie des arbres. Les nains. Car les arbres sont fourbes. C'est bien connu.
Comme tous les elfes, d'ailleurs.
Voilà. Nous avons le barde du groupe, Elan, qui est stupide, et qui est celui, justement, qui joue le plus sur les codes narratifs. Qui les analyse, qui explique que ça devrait se passer d'une certaine façon, parce que c'est comme ça que ça se passe dans une histoire. On a un épisode magnifique où un des personnages, on a deux personnages secondaires qui sont en train de se battre et qui vont mourir. Et l'un dans l'autre lui dit, celui qui est en train d'agoniser, demande à celui qui est en train d'agoniser, mais quel est ton nom? Et le personnage donne son nom et d'un coup ça va mieux, parce que du fait qu'il ait donné son nom, ce n'est plus un personnage secondaire.
Donc il va survivre.
Donc il a plus de chances de survivre. Voilà. Et il lui dit, ah c'est bien, mais quel est ton nom de famille? Non, je le garde pour une autre occasion plus grave. Voilà, tu vois un peu le genre d'humour bien foutu. Et puis surtout que l'aventure tient la route. Alors ça part sur des choses un peu basiques, mais le scénario se complexifie énormément, les personnages sont séparés. Ah oui, et puis j'oubliais, pardon, le héros qui est le guerrier de base, qui est la honte de la famille parce que son père voulait qu'il soit magicien et qu'il a voulu être guerrier comme son grand-père. Et Belkar, le halfling psychopathe, qui est le personnage le plus intéressant du groupe. D'ailleurs, dans l'épisode du gladiateur, c'est lui qui vole le pain aux autres. qui est donc un halfling psychopathe qui très vite ne suit le groupe que parce qu'il sait que en suivant le groupe c'est là qu'il aura le plus d'occasions de rencontrer des gens pour les tuer et gagner des points d'expérience. Voilà son seul objectif dans la vie. Bref, une série très très drôle et un style graphique très particulier. Si ça s'appelle The Order of the Stick, c'est pas pour rien. Les personnages sont dessinés en bonhomme bâton. Pourtant très bien fait, avec une narration qui colle très bien. D'ailleurs, il en joue aussi du coup fait qu'il soit dessiné en bonhomme bâton. Par exemple, le guerrier est dessiné avec une chaussure plus grosse que l'autre. Et à un moment, on voit le personnage qui se réveille, qui fait « Ah là là, je sais jamais quelle est si ma grosse chaussure, c'est la gauche ou la droite. » Voilà, c'est complètement débile, mais il joue beaucoup là-dessus. Je vous le recommande, malgré l'anglais qui parfois peut être un peu difficile. Si vous êtes rôliste, vous allez forcément adorer. C'est bourré de références que seuls les rôlistes peuvent comprendre. Si vous ne l'êtes pas, Ça ne fait rien. Je veux dire, quand je pense au nombre de rôlistes qui achètent la BD de Noël Buck, de non-rôlistes qui achètent la BD de Noël Buck, c'est du même niveau. Ça joue beaucoup sur les codes narratifs, je disais donc. Bref, The Order of the Stick, moi j'adore, je le suis régulièrement et je le recommande. Des recueils sont sortis qu'on peut acheter, des différents. Donc il y a plusieurs recueils, sachant qu'il y a un recueil qui contient des inédits, qui est un peu un préquel, qui raconte comment les personnages se sont rencontrés. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est très sympathique. Et l'auteur est encore plein d'humour et il dit si ce tome est en noir et blanc, c'est parce qu'il raconte ce qu'il se passait avant et pas parce que ça coûte moins cher à fabriquer. Voilà.
Ok.
Ce genre de trouvaille sympathique. Voilà, nous en avons fini. On va lire un petit commentaire iTunes, hein, pour histoire de dire. Donc c'est le sergent Pépère qui nous fait un commentaire. Alors ah, je me déplace parce que bien sûr mon ordinateur est pas devant mes yeux.
Donc là, je meuble en fait pour
Ouais, vas-y,
l'instant.
tu meubles, vas-y, meuble, attends. Alors, le sergent Pépère nous dit bon blog, très agréable. Je viens d'écouter l'épisode 4. Niveau son, c'est un peu juste parfois et la musique sort un peu fort. J'aime les avis et les discussions. Continuez comme ça, les gars. Bon, alors oui, c'est vrai que si, très cher sergent, vous avez lu l'épisode 4, vous avez écouté l'épisode 4, effectivement, je pense qu'on a fait de grandes améliorations sonores depuis.
Oui, je parle plus fort.
Voilà, on va essayer de conserver cette qualité-là. C'est un peu l'objectif, c'est toujours un peu délicat, on est un peu amateur, on découvre un peu les arcanes du podcast au fur et à mesure.
Il faut que tu te mettes en face du micro pour
Oui,
parler.
je sais, c'est ce que je fais là,
Non,
comme ça
c'est
je
pour
me tourne.
voilà, en
D'accord,
fait,
ouais.
c'est un petit
Voilà.
truc qu'il faut que tu fasses pour que ça
En
fonctionne
tout
mieux.
cas, merci de nous écouter. Laissez donc des commentaires sur iTunes si vous passez par iTunes, sinon le blog est là pour ça. On remercie encore les gens qui ont laissé aussi quelques commentaires sur le blog. Et puis, comme d'habitude, facebook.com/oneaiclub, twitter.com/oneaipied. Le blog, c'est blog.jeudepied.com. .org, pardon, blog.jeudepied.org. Ah, je dis n'importe quoi. Et je crois que c'est bon, on arrête de s'enfoncer, cher ami. Nous nous quittons
Vous
sur ces
arrêtez de
bonnes
vous
paroles.
enfoncer, nous nous quittons sur votre parole.
Je vois que vous ne m'êtes pas d'une grande utilité, vous ne m'aidez pas beaucoup. Peut-être vais-je songer à vous remplacer par une chaise. Au revoir. Ciao.
Les chaises partent pas.